Bon, alors heureusement on a le support des textes, donc ça devrait aller. On va continuer un petit peu l'exploration par les textes et puis après échanger un peu. Et après je continuerai sur quelque chose qui serait plus de l'ordre du dialogue interreligieux. Encore que ce terme de dialogue interreligieux, bon, il soit parfois un peu compliqué à employer, mais bon, disons en gros. Voilà. Alors, après la Bhagavad Gita, qui est vraiment le texte fondateur pour le vishnouisme, puisqu'il montre ce grand Dieu qui prend forme, qui se révèle à la première personne. La Bhagavad Gita, c'est la révélation de Vishnu qui parle lui-même, qui dit « Je suis l'origine, je suis le Dieu suprême », etc. Donc ça, pour les Vishnouites, c'est vraiment le fondement. Et on pense que ce texte émane d'un milieu de marchands, plutôt du nord de l'Inde, qui avaient à leur service des théologiens vishnouites qui ont élaboré à partir d'éléments plus anciens, qui ont élaboré cette figure du grand Dieu. Et donc peu à peu, par les routes commerciales, finalement, ce vishnouisme s'est répandu dans le sous-continent indien. Mais pas au-delà, contrairement, je ne sais plus, tout à l'heure, en déjeunant, on parlait d'une différence entre hindouisme et bouddhisme, qui est que le bouddhisme est d'emblée missionnaire. Le Bouddha, au fond, dit, sur ce point précis, dit la même chose que Jésus à ses disciples. Il dit, allez et répandez la bonne loi. Lui, il parle de la bonne loi. Bon, dans l'hindouisme, vous ne trouverez pas ça. En principe, je dis bien en principe parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveautés. Depuis le début du XXe siècle, il y a des nouveautés qui font qu'on ne peut plus être aussi affirmatif. Mais en principe, on est hindou, on ne devient pas hindou. C'est-à-dire qu'on est d'un père et d'une mère hindou, dans une certaine caste, à un certain lieu de la société, et on ne devient pas. Donc on ne se convertit pas à l'hindouisme, et donc les hindous ne sont pas prosélytes ou ne sont pas missionnaires. Alors, ça n'est plus vrai depuis la fin du XIXe siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure de Ramakrishna et de Vivekananda, enfin depuis le début du XXe siècle, pardon. Donc disons depuis un siècle, ça n'est plus vrai, mais les conversions à l'hindouisme restent extrêmement marginales. De toute façon. Alors, donc, pour revenir au vishnouisme ancien, il s'est répandu le long des routes de commerce, mais uniquement dans le sous-continent indien, et il n'a pas essaimé. Ce texte, finalement, il est devenu universel pour l'hindouisme, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est le dieu Vishnu qui parle, mais il dit des choses tellement transversales ou universelles en ce qui concerne la transcendance, en ce qui concerne le rapport entre l'homme et Dieu, en ce qui concerne une éthique de l'action, que finalement, il a été aussi adopté par les Shivaïtes et par, au fond, tous les gens se regroupe sous le nom d'hindou. Donc il a une sacralité particulière et ça a été le livre de chevet de toutes sortes, enfin le livre, c'était souvent oral, mais le texte de prédilection d'énormément de sages et de saints hindous et jusque dans l'époque moderne, contemporaine, par exemple Gandhi, c'était son texte de prédilection. Voilà, alors après je vous ai donné deux extraits de deux grands mystiques vishnouites, une femme et un homme. Voilà. Il y a très peu de femmes dont les compositions poétiques ou les écrits en général, mais c'est plutôt des compositions poétiques, aient été reconnues et aient été transmises. Mais Mirabai, hein, vous voyez page 3, Mirabai a été une des grandes saintes du vishnouisme. C'était une princesse de l'état du Mewar. L'épouse du Raja du Mewar. Mewar, c'est M-E-W-A-R, c'était un des états du Rajasthan. Donc, on raconte son histoire. Beaucoup, il y a des tas de légendes, de contes et légendes qui tournent autour de Mirabai. Et on raconte en particulier que, ce qui est probablement vrai, qu'elle était d'une famille vishnouite noble, qui l'a mariée donc au roi du Mewar, qui lui était shivaïte. Donc il y avait une dévotion envers cet autre grand dieu, qui est le frère du dieu Vishnu, enfin ils sont concurrents en même temps. Et on nous raconte qu'elle était très malheureuse dans sa famille, dans sa belle famille plutôt, la famille de son mari, cette belle famille shivaïte. Donc, qu'est-ce que ça dit à l'historien des religions? Ben, ça dit que la coexistence entre vishnouisme et shivaïsme, elle n'était pas toujours fraternelle. Hein. On sent bien derrière les contes et légendes à propos de la figure de Mirabai qu'il y avait des tensions. Peut-être que c'était des tensions locales, uniquement au Rajasthan, c'est possible, mais enfin, il y avait des tensions. Et cette princesse devient veuve et elle va conquérir sa liberté en la réclamant à de nombreuses reprises. Elle va conquérir sa liberté et on dit que sa belle famille la laisse partir et elle va partir comme ascète sur les chemins du Rajasthan en chantant des poèmes à la gloire de Vishnu. Donc, voilà un exemple d'un poème. Sans Hari, Hari, c'est un des noms de Vishnu, quelle est ma condition et mon salut? Tu es appelé mon protecteur, moi je suis ta servante. Du commencement à la fin, je retourne ton nom en mon cœur. À chaque instant, je crie le douloureux désir que j'éprouve pour toi, ô Seigneur. Le monde est un océan mouvant dont je suis entourée de tous côtés. La voile de mon bateau est déchirée. Répare-la, Seigneur, le bateau coule. L'épouse, tourmentée par la séparation, attend l'époux. Prends-la auprès de toi. Mira, c'est elle, Mirabai. Mira, l'esclave, crie le nom de Ram. Rama, c'est un des noms de Vishnu. Et prends refuge en toi. Voilà, alors... Vous reconnaissez sans doute quelque chose qu'on connaît ailleurs. Il y a une poésie mystique dans laquelle l'âme du mystique, ici c'est une femme, mais c'est pas parce que c'est une femme, c'est plutôt l'âme du mystique, qu'il soit masculin ou féminin, son âme est assimilée à une épouse et le dieu à l'époux de cette âme. Donc il y a une symbolique nuptiale. Qui fait penser au cantique des cantiques. D'ailleurs, certaines images dans la poésie de Mirabai font directement penser à ça, même s'il n'y a eu aucune possibilité d'influence, et dans laquelle qu'elle exalte, c'est la nostalgie de l'union avec Dieu et la détresse. Hein, quand elle dit « La voile de mon bateau est déchirée, répare-la, Seigneur, le bateau coule », bon, on sent... cet appel au secours dans l'expression « le bateau coule ». Et voilà, ça c'est une dominante de la mystique hindoue médiévale qui est très importante. J'ai oublié de dire que Mirabai a vécu au 15e siècle. Alors après, je vous ai pris un autre exemple qui est celui de Tukaram. Alors, Tukaram a composé... Tukaram a vécu dans un état qui est plus au sud que celui du Rajasthan, qui est l'état dont la capitale est Bombay, l'état du Maharashtra. Et il a vécu dans un petit village au bord d'une rivière qui est une rivière sacrée depuis très longtemps, le long de laquelle il y a des sanctuaires. Et ce petit village s'est trouvé donc sur une route de pèlerinage. Et du coup, il est devenu une station sur cette route de pèlerinage plus importante. Et là, il y a une école de spiritualité qui s'est développée et qui a perduré pendant très longtemps, puisque les premiers mystiques de cette école du Maharashtra, ceux qu'on repère en premier, ont vécu au 9e siècle, et que Tukaram a vécu au 17e. Donc il y a une longue histoire de cette école mystique, qui a regroupé des intellectuels ou au contraire des gens très simples au point de vue culture. Une des thématiques, c'est pas la seule, parce que justement il y a des grands intellectuels aussi, mais une des thématiques, c'est Dieu se révèle aux petits, aux affligés, aux handicapés, aux hors caste, à ceux qui sont impurs. Donc un peu une, c'est pas du tout des révolutionnaires, mais quand même une dimension un peu critique par rapport à la société de caste, à la société hiérarchisée. Et Tukaram était un petit artisan à qui on attribue ce que le traducteur, qui s'appelait Guy de Lery, a appelé les psaumes du pèlerin. Il n'y a pas de titre à son recueil, on dit juste le recueil de Tukaram en Inde, mais Guy de Lery a souhaité lui donner un titre, ou peut-être son éditeur, j'en sais rien. Et donc, il a, dans un précieux petit volume, il a traduit la poésie mystique de Tukaram, qui est très belle. Donc, en voici un exemple. « Partout je vois tes empreintes », donc il parle à Dieu, à Vishnu. « Partout je vois tes empreintes, le tout de tout est plein de toi. Forme, qualité, nom, tout porte ta ressemblance. Ô couleur de nuage », c'est un titre qu'il lui donne. « Toi ôté », si on t'enlève toi, rien ne reste. De partout, mon Dieu, tu me pénètres, espoir, occupation, plus rien de terrestre, où irai-je, que ferai-je, sur mes lèvres, sur mon cœur, ton nom, toujours. Alors, c'est une poésie qui est très élaborée, en fait, c'est-à-dire qu'on peut difficilement croire que Tukaram ait été un petit artisan, presque analphabète, parce que cette poésie que Guy de Lery a traduit comme ça, elle a une forme particulière, une forme versifiée, avec des rythmes qui sont propres à la psalmodie, à la répétition. C'est pour ça que le nom de psaume convient particulièrement bien à la poésie de Tukaram. Et donc, Guy de Lery, qui connaissait bien cette tradition du Maharashtra, a tenté de rendre les rythmes dans sa traduction. Aujourd'hui, Tukaram, est, comme Mirabai d'ailleurs, ils sont toujours récités. Et il y a des festivals de poésie sacrée, de poésie religieuse, poésie spirituelle, fréquemment. En Inde, il y en a au Rajasthan, il y en a à Bombay, il y en a à Delhi. Et ces grands saints, poètes, sont très souvent récités. Aujourd'hui. Alors, du côté du shivaïsme, qui se partage à peu près, de manière à peu près égale, l'ensemble des hindous, hein, on a shivaïte et vishnouïte sont à peu près en nombre égal. Alors, on a une vision qui est un peu différente. Enfin, tout ce qui concerne la société, les rythmes de la vie, le temps cyclique, les âges de la vie, enfin tout ce que j'ai exposé comme étant transversal aux différents courants qui constituent l'hindouisme, ça c'est pareil dans le shivaïsme. Mais ce qui diffère, c'est une certaine conception du divin. Entre autres, la grande différence, c'est que très souvent, pas toujours, mais très souvent, la dévotion ne s'adresse pas non pas à un dieu, mais à un couple. Dieu-déesse, dans le shivaïsme. Donc Shiva et la déesse. Et parfois, on prie la déesse seule comme étant la mère, M-E accent grave R-E, universelle, la grande mère. Et on a un texte qui est un texte qui date du 4e, 5e siècle après notre ère, donc assez ancien quand même, et qui est tout à l'honneur de la déesse. Vous voyez, Devi, Devi ça veut dire la déesse, c'est le féminin de Deva, Deva c'est le dieu, Devi c'est la déesse. Et Mahatmya, ça vient du mot Maha qui veut dire grand. Donc c'est Mahatmya, c'est la grandeur. Donc littéralement le titre, la grandeur de la déesse. Ça veut dire que les poètes qui ont composé ce texte, qui est anonyme d'ailleurs, on ne sait pas qui l'a composé, ce qu'ils entendent, c'est célébrer la grandeur de la déesse. Et du coup, ils en font la matrice universelle. Ce monde-ci a tout entier été tissé par l'énergie de la déesse. Oui, par la déesse elle-même, dont le corps contient toutes les énergies issues du corps des dieux. Vous voyez, une représentation un peu imaginaire, enfin, ou fantasmatique, dans laquelle le corps de la déesse, une espèce d'enveloppe cosmique qui contient toutes les énergies issues des dieux eux-mêmes. Comment pourrions-nous décrire cette forme inconcevable qui est la tienne, ou ta vaillance exceptionnelle qui permit l'anéantissement des asuras? Des asuras, c'est des démons. Je vais revenir dans un instant à ça. Ou ces exploits que tu as accomplis sur le champ de bataille où s'opposaient les dieux et les démons. Tu es la cause première de tous les mondes qui existent, toi qui possèdes les trois qualités cosmiques, ça aussi je vais expliquer après, tu es sans défaut et personne, pas même Vishnu ou Shiva, ne peuvent t'atteindre. Bon. Alors là, la grande déesse, c'est le réservoir de toute créativité, d'une part, mais c'est aussi une grande déesse combattante. Et c'est la déesse qui assure la protection de tous les vivants. Et pour ça, elle doit se battre contre les démons. Et nous avons toute une mythologie de la grande déesse qui est guerrière. Je dis ça parce que c'est important dans l'Inde actuelle, si vous allez en Inde. Vous verrez des représentations modernes, contemporaines, de l'Inde comme grande déesse. Disons que les Indiens, ils ont leur Marianne à eux. Et ils la représentent sous les traits de la grande déesse qui combat. Alors, qu'est-ce qu'elle combat? Dans le cadre d'un nationalisme hindou xénophobe, elle combat les étrangers. Mais dans la tradition ancienne, elle combat les démons, c'est-à-dire tout ce qui peut apporter de la négativité dans l'existence humaine. Il ne faut pas penser les démons comme on pense Satan dans le christianisme, c'est un peu différent. Les démons, par exemple, c'est la mousson excessive. Alors, on a toute une série de représentations de la déesse, entre autres au Bengale et en Orissa, qui est l'État qui est juste au sud du Bengale, sur la côte est, des représentations dans les villages populaires de la déesse, la grande déesse Devi, qui combat les nuages de la mousson, qui sont représentés comme des démons. Donc, la mousson est bonne, mais si elle est excessive, elle détruit tout. Et donc, cette déesse, on l'a pris de donner une mousson mesurée. Mais dans d'autres régions de l'Inde, la déesse est celle qui combat la variole et les épizooties, les maladies, les épidémies qui déciment le bétail. Et là, on a un certain nombre de représentations de la déesse qui détruit les démons de la maladie. etc. Donc, on a des interprétations diverses, multiples, de cette figure de la grande déesse, et c'est pour ça que je voulais vous montrer, même, enfin, sans vous donner tous les tenants et les aboutissants, vous montrer un peu cet aspect-là. Donc, elle accomplit des exploits sur un champ de bataille qui est en fait le monde, hein, le cosmos, la vie. C'est ça, le champ de bataille. Et elle participe à cette lutte incessante contre les démons, quels qu'ils soient, des maladies, des cataclysmes, enfin tout ce qui peut affecter la vie humaine. Alors on dit qu'elle est la cause première de tous les mondes qui existent. Hein. Tous les mondes, c'est les mondes qui se succèdent, comme ça, selon ce que j'ai expliqué ce matin. Toi qui possèdes les trois qualités cosmiques, alors oui, bon, ça c'est un peu technique, mais j'aurais pu enlever cette demi-phrase, ça m'aurait évité de vous l'expliquer, mais voilà, je vais l'expliquer quand même. Donc, pour que le monde se développe, il faut qu'il dispose de trois énergies, trois types d'énergies. Il y a une énergie d'inertie. Ça nous paraît négatif, mais c'est pas négatif. Pensez aux graines qui germent dans l'obscurité de la terre. Il faut bien que ça commence comme ça. Donc il y a cette énergie-là qui apparaît comme plutôt une force d'inertie, d'endormissement, etc., mais elle est importante. Il y a une énergie d'expansion, d'éclatement, qui est symbolisée par la couleur rouge. Et qui participe aussi de la violence, du combat, etc., mais qui est la force. Et puis, il y a une énergie d'équilibre, voilà, entre les deux, mais entre d'autres réalités aussi. Bon, dit très vite, c'est ça les trois qualités. Et c'est par un dosage, un pourcentage de ces différentes qualités et des formes qu'elles peuvent prendre, que toute chose naît, se développe, se défait, disparaît, recommence, etc. Voilà. Donc la déesse, elle possède ça. Un exemple, là aussi j'ai privilégié une femme, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, je les ai choisies, d'une mystique shivaïte qui s'appelle Lala. Et qui a vécu au Cachemire, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, entre 1350 et 1400. Elle est intéressante, Lala, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est l'héritière d'une tradition du shivaïsme du Cachemire, qui est une école mystique, très haute école mystique, très difficile à comprendre aussi. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné des textes d'autres mystiques du Cachemire. Et elle est plus simple parce qu'elle est au niveau vraiment de l'expérience mystique, alors que les autres sont aussi et surtout des philosophes. Donc, ils demandent une approche plus intellectuelle et plus argumentée pour les comprendre. Elle est intéressante aussi parce que... elle est au carrefour de la mystique hindoue, donc de son école du Cachemire, qui a commencé au 9e siècle, et de la mystique musulmane. Entre autres, ces mouvements mystiques qu'on réunit sous le nom de soufisme. Et, parce qu'on raconte que elle a eu une éducation hindoue, tout à fait hindoue, mais qu'en même temps, elle a rencontré et peut-être suivi les enseignements d'un soufi qui s'appelait Al-Hamadani. Hamadani, ça nous renvoie à la ville d'Hamadan, et donc au plateau iranien. Or, 14e siècle, c'est l'époque où les confréries soufis arrive en Inde et où d'ailleurs certaines confréries vont naître en Inde, mais dans ce XIVe siècle, ce sont des confréries qui sont nées à Bagdad ou dans cette région, et aussi en Iran, la Sohrawardi et d'autres, qui viennent en Inde. Et là, il va y avoir une rencontre entre les mystiques hindous et les mystiques soufis. Et c'est un aspect très intéressant de la rencontre. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, quand je vais parler un tout petit peu des musulmans. Et donc Lala, elle aurait, on pense, hein, on croit qu'elle a suivi les enseignements de ce soufi. Et elle a un monothéisme. Alors là, on peut parler d'un monothéisme très pur, qui pourrait bien convenir à des musulmans aussi. D'ailleurs, ses poèmes ont été aussi colportés, parce que en Inde médiévale, ça se passait comme ça. Il y avait des chanteurs qui étaient itinérants. Et il colportait les poèmes, les hymnes, les prières, les pièces de théâtre aussi, parce que tout ça n'était pas séparé dans des genres différents. Les légendes, les épopées, le Ramayana, le Mahabharata, dans les langues vernaculaires, les langues locales, il colportait ça dans les petites villes, dans les villages, où on ne lisait ni on écrivait. Donc Lala, on sait que ses poèmes, ils ont été colportés bien sûr par des hindous, par des récitants, des bardes hindous, mais aussi par des bardes musulmans. Donc ça veut dire que les musulmans se reconnaissaient aussi dans son expérience mystique et dans ses poèmes. Alors en voilà deux. À réciter encore, je me suis fatiguée la langue et le palais, pourtant jusque à toi, jamais mes pratiques ne se sont élevées. À égrener le rosaire, je me suis usé le pouce et l'index, pourtant la dualité n'a point encore quitté ma pensée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les pratiques ne permettent pas d'accéder à la fusion avec le divin. On peut pratiquer, que ça soit réciter ou que ça soit égrener le rosaire. Le rosaire, c'est le chapelet des Shivaïtes. Il est formé de 108 boules d'un végétal un peu rugueux comme ça. Donc, quand on égrène ce rosaire Shivaïte, ça gratte et ça crée des petites callosités sur le pouce et l'index, c'est pour ça qu'elle dit ça, à égrener le rosaire, je me suis usé le pouce et l'index. Pourtant, la dualité, c'est-à-dire la différence avec toi, l'impossibilité de communiquer avec toi, le Dieu, la dualité n'a point encore quitté ma pensée. Je suis toujours, je n'arrive pas à te rejoindre. Donc là, elle déconsidère les pratiques. Bon, elle ne dit pas qu'elles sont inutiles, mais elle dit que pour obtenir l'état mystique, l'état d'union, eh bien, elles sont insuffisantes. Et puis, une sorte de... Ce n'est pas un compte-rendu d'expérience mystique, parce qu'on ne fait pas des comptes-rendus d'expérience mystique, mais c'est une sorte d'évocation, de souvenir de l'expérience. Je m'élançai et je fis mon chemin dans le vide et le vent. Je vis Shiva partout, imprégnant tout. Je fondis au feu de l'amour telle la glace, quand après les gelées, le soleil reparut. Alors moi, Lala, je demeurai en paix, me souvenant que je est son nom. Voilà, bon, ça je ne vais pas le commenter parce que c'est trop beau, donc ça ne mérite pas de commentaire. Je vous ai choisi un sage qui est dans la tradition shivaïte, bien qu'il ait eu une importance assez universelle, transversale dans l'hindouisme du XXe siècle, mais il vivait dans une montagne, puis au pied d'une montagne qui était consacrée au dieu Shiva, dans l'Inde du Sud. Et il a écrit des poèmes au dieu de cette montagne, qui s'appelle Arunachala. Arunachala, ça veut dire la montagne de l'aurore. Aruna, c'est une couleur qui est jaune, rose, orangé, qui est vraiment définie comme la couleur que le soleil prend à l'aurore. Et donc, ce Ramana Maharshi, qui est mort en 1950, il a eu une sorte de révélation qui a complètement retourné sa vie à l'âge de 16 ans. Et il a quitté sa famille à ce moment-là pour devenir renonçant. Pas moine dans un monastère, mais renonçant errant. Et finalement, sur son chemin, il a rencontré, si je puis dire, enfin, il s'est reposé dans un temple qui était un grand centre de pèlerinage au pied de cette montagne d'Arunachala, un centre de pèlerinage ancien, puisque le temple lui-même, ses fondements datent, ses bases datent du 9e siècle. Et c'était un lieu où se retrouvaient les renonçants shivaïtes pour les grandes fêtes du dieu Shiva qui ont lieu au mois de janvier, à la nouvelle lune de janvier, qui s'appelle Shiva Ratri, la nuit de Shiva. Et donc finalement, il va cesser d'itinérer et il va se poser là, 3 ans sous les portiques du temple, dans un état, une sorte d'état cataleptique, puisqu'il ne se nourrissait pas, il fallait le nourrir, lui mettre la nourriture dans la bouche pour qu'il survive, qu'il puisse vivre. Donc il va avoir des sortes de disciples, je ne sais pas si on peut appeler ça des disciples, parce que lui était complètement silencieux, enfin, des gens qui vont s'occuper de lui. Puis au bout de 3 ans, il va sortir de cet état étrange pour dire qu'il était complètement absorbé par la divinité, par le dieu Shiva. Il va vivre encore quelques années seul dans la montagne, dans une grotte, parce que cette montagne, elle est trouée, c'est pas une grande montagne, hein, elle fait 800 mètres, alors vous voyez, sur une plaine complètement plate, mais la montagne elle-même, elle ne fait que 800 mètres, c'est pas l'Himalaya. Mais cette montagne est trouée de grottes, et depuis, semble-t-il, la plus haute antiquité, il y avait des gens qui allaient vivre dans ces grottes de manière définitive ou de manière temporaire. Et donc Ramana Maharshi, le jeune Ramana Maharshi, il a maintenant 20 ans, va vivre plusieurs années dans une grotte. Et il y a des gens qui vont commencer à monter, le voir et lui poser des questions. Donc il a fait vœu de silence. Alors parfois il répond sur un petit papier, mais sinon il répond pas. Et les gens disent qu'en redescendant de la montagne, après avoir passé un moment de silence avec Ramana Maharshi, ils ont la réponse à leurs questions. Voilà. Donc, une forme d'enseignement qui d'ailleurs est connue dans d'autres religions, un peu paradoxale, qui est un enseignement sans parole, où quelque chose semble se passer au niveau de l'intuition, dans un état de silence méditatif. Et puis finalement, de plus en plus de gens viennent, dans toute l'Inde du Sud, on raconte qu'il y a un jeune sage qui enseigne silencieusement. Donc les gens sont de plus en plus nombreux à venir. Et son frère et sa mère vont construire un ashram, c'est-à-dire une école de spiritualité, au pied de la montagne. Ils vont le convaincre de descendre dans cet ashram et de donner des enseignements. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il fera ce que font tous les gourous depuis assez longtemps en Inde, je sais pas depuis quand, mais depuis assez longtemps dans l'Inde classique, dans l'Inde médiévale et classique et jusqu'à aujourd'hui, qui est donner un enseignement tous les jours à la même heure. Et ça s'appelle le darshan. Darshan, ça vient d'un mot qui veut dire voir. Et c'est la vision du maître. À ce moment-là, le maître sort, le maître, le saint, le sage, sort de son ermitage, de sa cellule, et tout le monde peut le voir. Alors, tout à l'heure, je vais parler de rencontre christianisme-hindouisme, et vous verrez que le moine chrétien bénédictin Don Le Sceau a rencontré Ramana Maharshi. Plus exactement, il ne lui a même pas parlé. Il a assisté à un darshan de Ramana Maharshi et il s'est dit, je vais revenir. Et finalement, Ramana Maharshi est décédé entre-temps. Bon, donc ça a été un très, très grand sage. Et il a composé des textes très courts, d'ailleurs, parce qu'il disait... on lui avait demandé un commentaire sur la Bhagavad Gita. Il avait dit un commentaire sur la Bhagavad Gita, mais Krishna dit tellement bien ce qu'il a à dire, je vois pas pourquoi je ferai un commentaire. C'est tout à fait inutile. Donc on est dans une sorte de sobriété avec lui. Il a composé un ou deux textes aussi célèbres. Il y en a un qui s'appelle Qui suis-je, dans lequel il explique la différence entre l'ego et puis l'Atman, le soi. Mais c'est un texte qui fait quelques pages seulement, ce n'est pas du tout un traité comme ça. Et il a composé des stances au dieu d'Arunachala, qui est le dieu Shiva. Ô Seigneur, sous la forme d'Arunachala, maintenant que par ta grâce tu t'es emparé de moi, qu'adviendra-t-il de moi, à moins que tu ne te manifestes à moi, qui, languissant de toi, mélancolique, et harcelé par l'obscurité du monde, suis perdu. Alors là, déjà, il y a un jeu dans la langue tamoule que j'ai essayé de rendre, mais ce n'est pas évident. Un jeu entre les pronoms « je » et le pronom « tu ». Ce jeu, on le rencontre dans d'autres textes en sanskrit. Il soutient l'idée que tant qu'il y a deux personnes, on est encore dans la dualité. Et finalement, quand la fusion mystique arrive, le mystique ne peut plus rien dire parce qu'il n'a plus sa personnalité, il ne peut plus dire « je », puisqu'il est absorbé par la divinité. Donc ils essayent quand même de dire ce qu'est l'expérience mystique dans cette espèce de paradoxe. Donc là, il y a quelque chose aussi chez Ramana Maharshi de cet ordre. Comment le lotus peut-il fleurir sans la vue du soleil ? Tu es le soleil des soleils. Tu permets que la grâce jaillisse en abondance et coule à flot comme le fleuve. Alors, je vous ai donné aussi la stance numéro 6 parce que je l'aime beaucoup. Seigneur de ma vie, j'ai toujours été à tes pieds comme une grenouille au pied d'une tige de lotus. Alors, quand vous avez vu une grenouille au pied d'une tige de lotus, vous savez ce que veut dire Ramana Maharshi. C'est tellement ça, vraiment. Elle est là. Elle voudrait monter le long de la tige de lotus. En général, elle n'y arrive pas. Et voilà, il y a une espèce de dialogue entre la tige de lotus et puis la grenouille. Fais plutôt de moi une abeille qui suce le doux miel de la pure conscience. Alors j'obtiendrai la délivrance. Si jamais je perds la vie, tandis que je grimpe à tes pieds de lotus, que cela soit pour toi une colonne dressée d'ignominie, ô flamboyante montagne de lumière qui répand ses rayons rougeoyants, ô effusion de grâce plus subtile que l'éther. Alors là, c'est intéressant aussi parce que, au fond, il rend la divinité responsable de sa vie. Et il lui dit, si jamais je perds la vie, mais c'est pas seulement la vie physique, c'est si je perds la dimension spirituelle, si je perds le sens, que ça soit ta faute. Toi, mon Dieu, que ça soit ta faute, parce que je peux rien faire tout seul. Et il faut que ça soit toi qui, par grâce, me tire de l'étang, parce que comme une grenouille, je peux pas m'en sortir. Et j'essaye de grimper, j'y arrive pas. Donc, je suis entre tes mains. Et finalement, si j'y arrive pas, c'est parce que tu ne m'aides pas. Donc il y a une espèce de dialogue très familier C'est ça qui m'a frappée chez Ramana Maharshi. Ça existe aussi chez Lala, qui parfois se fâche avec Shiva et elle dit « Je t'ai cherché partout et puis je ne t'ai pas vu. Tu es le dieu qui joue à cache-cache avec nous et c'est pas bien parce que on te cherche et on te trouve pas. » Voilà. Et Ramana Maharshi, il a aussi cette oui, cette sorte de dialogue familier avec la divinité, avec des images qui sont des images qui appartiennent au monde quotidien, enfin au monde dans lequel il vit, hein, la grenouille, l'abeille, etc. Et c'est beau aussi comme comme poésie, hein, c'est une poésie plus populaire, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire populaire, enfin plus intimiste, voilà, je crois que ça serait plus juste de dire ça, moins philosophique, moins intellectuel, mais qui parle beaucoup aux gens et qui s'adapte très bien à ce colportage oral qui existe encore dans l'Inde d'aujourd'hui. Hein. Ça, il y a encore ces bardes itinérants qui sont probablement eux-mêmes des mystiques, des dévots, qui vont sur les routes de pèlerinage, etc., et qui savent par cœur des quantités et des quantités de poèmes, d'hymnes védiques, de morceaux du Mahabharata, etc. Ils ont une culture qui est assez éclectique, mais qui est profondément traditionnelle et qui continue encore de fasciner les gens parce que les gens s'arrêtent pour les écouter ou les invitent le soir sur la place du village quand ils passent et leur demandent de réciter, les nourrissent pour la récitation. Ça, c'est des choses qui existent encore. Alors, pas en plein Bombay ou en plein Delhi, encore que le festival de musique soufie, de musique soufie, mais aussi de poésie ourdou, c'est-à-dire c'est la langue dans laquelle s'expriment les grandes traditions mystiques de l'islam indien. Le festival de langue ourdou de Delhi est un festival qui est extrêmement couru. Il y a énormément de monde et il y a de la poésie profane, mais aussi de la poésie religieuse qui est dite, récitée, psalmodiée, chantée. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très, très vivant. Voilà, donc un petit éclairage sur la littérature hindoue, sachant que bon voilà c'est immense, c'est un monde très vaste, donc c'est une toute petite approche. Mais après, vous avez des références, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Puis je vous ai donné un peu de bibliographie. Voilà, donc maintenant j'aimerais qu'on discute un peu. Jusque vers 3h, 3h et quart, puis après on fera une pause. Donc voilà, vous avez. Je vais le faire après. J'allais dire n'hésitez pas, mais vous n'hésitez pas.
Oui, vous nous avez dit au début que. La culture religieuse hindouiste était orale. Et puis par la suite, vous nous parlez de textes écrits. À quel moment et pour quelle raison est-ce qu'on en a idée déjà ? On n'en a peut-être pas aucune idée. Tout ça a été mis à l'écrit. Parce qu'il doit y avoir une différence dans la perception qu'on a d'une mystique orale, d'une religion orale et d'une religion écrite, j'imagine.
Alors, les systèmes d'écriture deviennent courants au VIe siècle avant notre ère. On a plusieurs systèmes d'écriture. Et donc, les textes qui existent déjà à ce moment-là sont mis par écrit. Ils vont être copiés et recopiés. L'Inde, c'est pas l'Égypte, hein, c'est pas le désert égyptien. Donc, les textes ne se conservent pas très, très longtemps. Et donc, il y a un travail de copiste chez les experts en religion qui est un travail très important. Ceci dit, ce qui est spécifique à ce monde, c'est que même quand les textes sont mis par écrit, on les transmet oralement. C'est-à-dire, ils sont mis par écrit à des fins de conservation. Mais c'est l'oralité, parce que c'est la parole, la prééminence de la parole, qui demeure le vecteur essentiel de la transmission et de l'apprentissage. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai rencontré des brahmanes neutres, c'est pas le sens du mot brahmane neutre, l'absolu, mais des brahmanes, c'est-à-dire des officiants de temples, aujourd'hui, qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas écrire. C'est des intellectuels quand même, hein, donc c'est un peu une boutade. Pour dire combien ce qui est efficace, Alors, il y a toute une thématique de l'écoute aussi. Le Dieu vous écoute quand vous lui parlez. Or, vous ne lui parlez pas en lisant un texte. Voilà. Donc, et puis, il y a de nombreuses spéculations aussi sur le son, la vibration sonore, etc. Donc, voilà. On est dans un monde qui est quand même un monde de l'oralité.
Oui, s'il vous plaît, à propos de, si on peut avoir un peu d'éclaircissement sur l'un. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a une recherche donc, très nette de chercher l'unité avec ce que vous ne voulez pas appeler l'âme. Donc, quand on écoute ceci, on se dit qu'il y a du monothéisme. Et à la fois, vous dites qu'il y a la multitude de divinités. Finalement, dans la recherche de l'un, est-ce que c'est une recherche d'un Dieu unique ou bien c'est l'unité de la personne elle-même ou bien c'est une fusion avec le Dieu unique ou bien c'est pas du tout ça?
J'ai envie de vous dire, mais vous allez dire que je me défausse. J'ai envie de dire, c'est tout ça à la fois. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que le plus simple, ça serait de dire que dès les origines, donc à l'époque védique, on est dans le cadre d'un polythéisme. Donc il y a plein de dieux. Enfin, il y a une multitude de dieux. Même, on ne sait pas combien. Parce qu'on peut toujours... à partir du moment où il y en a plusieurs, il peut toujours y en avoir plus. On peut créer une nouvelle figure de divinité. Bon, donc ça, c'est une première approche. C'est ce qui se voit encore aujourd'hui quand vous allez en Inde. Vous verrez Ganesh, Shiva, la déesse, Vishnu. Vishnu, il n'a pas la même forme dans le nord et dans le sud de l'Inde, au point que c'est presque deux divinités différentes. Il faudra qu'on vous dise que c'est la même pour que... Vous puissiez vous rendre compte que c'est la même, parce que ça vous paraîtra pas évident. Donc on est vraiment dans le cadre d'une multiplicité de figures du divin. Bon, donc il y a des gens qui vont avoir une dévotion particulière pour telle ou telle divinité. Aujourd'hui, par choix, souvent par choix, et jusqu'à la période récente, par héritage. Parce que votre famille a une dévotion pour telle forme de Vishnu, vous allez avoir la même. Bon. Cette dévotion, elle est assez exclusive. C'est-à-dire que si mon père était un fervent vishnouïte, moi je vais l'être aussi. Donc, de mon point de vue à moi, Vishnu est mon seul dieu. D'accord ? Mais je sais très bien qu'à côté, dans la famille qui est de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté de l'étang du village, il y a des Shivaïtes. Donc, eux, ils ont un autre dieu. Et si je lis ou j'écoute le Mahabharata, eh bien, j'entends ou je vois que le dieu Vishnu et le dieu Shiva, ils font partie d'un ensemble de divinités qui ont des actions, qui font des miracles, etc., différents. Donc ça, c'est la situation concrète, j'ai envie de dire, anthropologique. Après, certains ont réfléchi que peut-être... Derrière, peut-être que ces différents dieux ce ne sont que des formes de quelque chose qui n'a pas de forme, ou de quelque chose auquel l'intelligence humaine ne peut pas donner une forme, parce que c'est au-delà de tout. Alors c'est invisible, on ne peut pas le percevoir. Si on lui donne un nom, on pourrait lui donner un autre nom, et puis un troisième nom encore, donc on n'arrive pas à le définir, parce que c'est au-delà de l'intelligence et de l'esprit humain. Et ça, c'est Brahman, l'absolu, l'être. Or, l'idée très ancienne des le Véda, c'est que c'est cet absolu qui fait l'unité de toute chose. Il est un principe d'unité. C'est-à-dire que la multiplicité, qui est le fruit de la création, elle est du côté de l'existence, elle est du côté de l'impermanence. Mais il y a un fondement unique à tout, à toutes les choses. Et c'est ça que le Véda appelle Brahman. Bon, donc je ne sais pas si ça éclaire un peu votre...
Il me semble que ce Brahman n'a pas beaucoup d'utilité dans la vie des hindous, ou bien je me trompe?
Si, il a une utilité fondamentale, enfin une utilité, je ne sais pas, mais il a une signification fondamentale, c'est de dire que tout ce qui existe, existe sur un fond, une trame, un tissu unique. Et que donc, les formes, qui sont toujours passagères, ou qui sont toujours différenciées, ou qui sont toujours limitées, elles viennent sur ce fond-là. Si vous n'avez plus ce fond, au fond, tout s'écroule. Et le mystique, c'est celui qui cherche, enfin, je ne sais pas s'il cherche, il est appelé à passer au-delà des formes et à se fondre dans cet absolu. Si on croit que on ne croit pas que cet absolu existe, alors tout s'écroule. Il est en quelque sorte la clé de voûte invisible de tout. Bon, voilà, maintenant après, il faudrait creuser... creuser ce que c'est que le « un ». On est avec des penseurs qui sont un peu comme Platon, si vous voulez, qui relisent et critiquent les croyances religieuses, s'interrogent sur le phénomène même de la croyance et mettent à la place d'une divinité qui serait identifiable un principe d'être absolu. Voilà, donc on est à la frontière de la philosophie et de la religion, et ça, c'est difficile à définir.
Oui, j'ai une petite question très simple. Est-ce que pour certains, et comme le bouddhisme, certains disent que c'est ou une religion, ou une philosophie, ou une sagesse? Est-ce que c'est la même chose pour l'hindouisme? Apparemment, ça me semble un peu moins le problème, je ne sais pas. Vous nous avez dit également que dans les années 60, tout le phénomène hippie, etc., était... Alors, il était hindouiste et bouddhiste, enfin, les Hare Krishna et tout ça, enfin, je ne me souviens plus très bien si c'était plus d'influence bouddhiste ou hindouiste. Et je voulais aussi vous poser la question, est-ce que dans d'autres pays, on trouve l'hindouisme comme le Bangladesh, par exemple, qui était l'Inde, est-ce qu'ils ont des hindouistes au Pakistan? Je ne pense pas beaucoup, mais dans d'autres pays, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont essaimé également ailleurs, même s'ils ne sont pas prosélytes en eux-mêmes, mais voilà.
Ok, alors, attendez, rappelez-moi votre première question.
Entre la sagesse et
Ah oui,
et la religion.
L'hindouisme, oui. Alors là, vous avez raison, c'est qu'il se passe un phénomène étrange que les historiens des religions ne savent pas s'expliquer, c'est qu'avec le bouddhisme, on a un homme, le Bouddha. Est-ce qu'il a vécu vraiment comme on nous raconte, on n'en sait rien, mais enfin, il y a un fondateur qui dit « Je suis un homme comme les autres, simplement j'ai fait un certain chemin. Si vous faites ce même chemin, vous deviendrez des Bouddhas, c'est-à-dire des êtres éveillés comme moi. » C'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y a ni Dieu, ni rien de tout ça. Et d'ailleurs, on a des critiques de l'époque du Bouddha, des critiques violentes contre ce qu'on pourrait appeler, c'est un mot moderne, mais ce n'est pas le mot qu'ils emploient, contre quelqu'un qui serait athée. Hein, quelqu'un qui serait athée. On le critique parce qu'il serait athée. Et quand il arrive pour faire ce qui est connu classiquement comme le sermon des quatre vérités, qui est le premier grand sermon du bouddhisme, il arrive à Bénarès. Ça se passe dans un parc qu'on appelle le parc aux gazelles, qui est toujours existant. Il n'y a plus de gazelles, mais il y a des monastères bouddhistes en ruine près de Bénarès. Et Bénarès est une ville très hindoue. Et le Bouddha est mal accueilli. Enfin, il a quelques disciples, mais en fait, il est mal accueilli parce qu'on le considère comme quelqu'un, on ne sait pas comment le classer, il ne croit à rien. Enfin, on pense qu'il ne croit à rien. Parce qu'il n'appelle jamais les dieux à la rescousse, si je puis dire. Donc son chemin, le chemin qu'il propose, est un chemin purement humain. Puis vous faites 3 siècles, et vous retrouvez un Bouddha divinisé, avec des formes diverses, qu'on appelle les bodhisattvas, et des dévotions partout dans l'Asie du Sud-Est, et aussi par la voie du Nord, le Tibet, etc. Et on n'arrive pas bien à s'expliquer cette mutation. Voilà. Il y a eu une divinisation du Bouddha. Alors on dit, bah oui, bon, c'est normal, les gens, ils ont toujours tendance à diviniser, ouais, peut-être, mais enfin, pour un historien des religions, il y a là une sorte de quelque chose d'un peu mystérieux. Alors que l'hindouisme se caractérise par une dévotion aux dieux. Hein, il n'y a pas d'autre moyen que de. Voilà, et une dévotion très forte. Alors, vous allez en Inde, vous arrivez, vous êtes dans une république laïque, mais vous êtes sur une terre qui est profondément religieuse. À chaque coin de rue, il y a un oratoire de la déesse, du dieu Shiva, du dieu Vishnu. Vous croisez sans cesse des processions en plein quartier de la Bourse de Bombay. Ça dérange personne, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Alors, la deuxième question, là-dessus, les hippies... Est-ce qu'ils étaient plutôt hindous, bouddhistes? Ben, ils étaient un peu tout. D'abord parce que, justement, une des aspirations du mouvement des années 60, c'est pas faire de distinction. Mettre du liant et même de la confusion, puisque c'est une forme de recherche comme ça, entre les différentes religions, du syncrétisme, entre les différentes religions, spiritualité, sagesse, religion, tout ça, c'était... Et quand les... Par exemple, quand les Beatles ont séjourné à Rishikesh et qu'ils ont créé un de leurs chefs-d'œuvre qui est l'album blanc, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose des gens dans la salle, mais pour moi, c'est très vivant. Ils ont suivi, c'est parce qu'ils suivaient quelqu'un qui s'appelait Maharishi Mahesh Yogi, qui se donnait le titre de yogi parce que c'était à la mode à ce moment-là, donc c'était bien, et puis qui avait fait une sorte d'amalgame entre des thématiques différentes qui appartenaient principalement à l'hindouisme, mais la méditation bouddhique aussi. Puis il y avait des choses qu'il avait empruntées à Lao Tse, un peu. Il parlait de temps en temps du Tao, tout ça. Enfin, il y avait tout un petit mélange. Les hippies des années 60, ça ne les dérangeait absolument pas. Ils ne se demandaient pas si c'était bouddhiste, hindou. Voilà. Et votre troisième question ?
D'autres pays.
Ah oui. Alors, donc, en 1947, le 15 août 1947, les Anglais quittent l'Inde, et quittent l'Inde après l'avoir divisée entre... Enfin, ils quittent le sous-continent indien, pardon, après l'avoir divisée. Alors, je ne parle pas du Bhoutan, du Népal et des États qui sont comme ça, là, en bande le long de l'Himalaya, aux marges de l'Himalaya. Je vais parler des trois grands qui sont la République indienne, le Pakistan, le Bangladesh. Donc, les Anglais s'en vont le 15 août 1947 et à la suite de négociations impossibles, ils laissent deux pays, deux nations nouvelles, modernes. Une qui est l'Union indienne, la République, qui est une république laïque et socialiste, comme j'ai dit, et l'autre qui est le Pakistan. Ce Pakistan, il est formé de deux régions qui sont à 2500 km l'une de l'autre. Donc il est formé en dépit du bon sens, vous imaginez, comme si la France était partagée en deux parties à 2500 km l'une de l'autre. Ça ne pouvait pas être viable longtemps, mais ça commence comme ça. Le Pakistan occidental, c'est toute la vallée de l'Indus, en gros. Le Pakistan oriental, qui est la moitié orientale de l'ancien grand État du Bengale. Donc ce grand État du Bengale, il est coupé en deux. Il y a une partie qui va à l'Inde, c'est ce qu'on appelle le Bengale occidental, et puis il y a une partie qui va former le Bangladesh, qui est d'abord le Pakistan oriental et qui prend son indépendance en 1973 sous le nom de Bangladesh. L'idée, une des idées de la partition, c'était un pays pour les hindous, un pays pour les musulmans. Sauf que ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. D'abord parce qu'il y avait bien des musulmans qui étaient dans ce qu'allait devenir l'Inde et qui n'avaient pas du tout l'intention de la quitter ou qui ne pouvaient pas la quitter pour des raisons économiques ou autres. Et inversement, il y avait des hindous. Le Nord-Ouest a toujours été plus musulman qu'hindou, mais quand même, il y avait beaucoup d'hindous dans le Nord-Ouest et qui ne sont pas partis. Donc, il y a une minorité hindoue au Pakistan, il y a une minorité hindoue au Bangladesh, elles ne sont pas très importantes, c'est dans chacun des cas une dizaine de millions. Et il y a une forte minorité musulmane en République indienne, 200 millions. Bon. Le problème des minorités religieuses dans chacun de ces trois grands pays est un problème névralgique. Déjà sous Nehru, il y avait eu, parce qu'il y avait des discriminations extrêmement importantes, il y avait eu un accord entre Nehru et celui qui était à ce moment-là le premier ministre du Pakistan, puisque c'était encore le Pakistan, qui s'appelait Liaq Khan. Et cet accord portait exclusivement sur le sort de leurs minorités respectives et l'obligation de non seulement les protéger, mais d'exercer sur elles la discrimination positive, ce qu'en anglais on appelle affirmative action, c'est-à-dire que ces minorités, on savait qu'elles étaient défavorisées par la partition, et donc, il fallait leur donner quelque chose de plus qu'aux autres. Mais ça a produit des réactions en retour. C'est-à-dire que les majorités dans chacun de ces pays ont dit « Alors, pourquoi les musulmans, eux, ils ont plus que nous, ils ont des quotas dans l'administration, etc. » C'est injuste. Et on a eu jusqu'à des hindous fondamentalistes qui se sont immolés par le feu parce qu'il y avait de la discrimination positive venant de l'État indien, de leur État, la discrimination positive en faveur de minorités religieuses, spécifiquement des musulmans. Bon, voilà. Donc, la situation n'est pas simple. Hein.
Mais est-ce que... Là, on sait bien qu'il y a une hostilité qui a pu être très, très vive entre musulmans et hindous, mais est-ce qu'au millénaire précédent, ou même il y a un siècle ou deux, est-ce qu'il y avait une bonne entente entre ces deux choses ou pas ?
Vous avez raison de poser la question. On pense, et le nationalisme hindou actuel tente de démontrer qu'il y a toujours eu la guerre entre hindous et musulmans dans le sous-continent. Or, c'est absolument faux, historiquement faux. Alors, il y a eu des deux. Je voulais vous parler un peu de l'islam indien, mais je vais le faire en répondant à votre question, et comme ça j'en parlerai moins tout à l'heure. Il y a eu des deux. Par le nord-ouest, ça a été assez violent, c'est-à-dire qu'on a eu des conquérants qui avaient l'islam pour religion. Ils pouvaient être arabes, ils pouvaient être turcs, mongols, etc. On a eu donc des conquérants qui ont ravagé à chaque fois les riches cités. C'est toujours la même histoire, c'est les nomades qui arrivent et puis qui ravagent les riches cités sédentaires de l'Indus et du Gange. Bon. Donc là, on peut dire que oui, il y a eu des conflits nombreux, les images des dieux hindous sur les temples ont été martelées, etc. Donc il y a eu vraiment, il n'y a pas eu, comme disent les livres d'histoire dans lesquels les petits Indiens aujourd'hui apprennent l'histoire, il n'y a pas eu un génocide à l'encontre des hindous, c'est absolument faux. Mais il y a eu des guerres. Bon. Par le sud-ouest, la rencontre a été beaucoup plus douce. Pourquoi ? Parce que c'était des commerçants qui faisaient le commerce avec, grâce au vent de mousson entre l'Arabie et la côte sud-ouest de l'Inde. Ils faisaient ça depuis les temps immémoriaux. On sait que depuis la préhistoire, il y avait des bateaux primitifs, certes, mais il y avait des bateaux qui utilisaient les vents dans les deux sens. Bon, ben, d'abord, ces gens-là, ils étaient je ne sais pas quoi, et puis après, ils avaient comme religion les religions bédouines. Et puis, il y avait des juifs aussi, il y avait des commerçants qui avaient une religion qui s'appelait le judaïsme. Bon, quelques chrétiens aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui sont arrivés au tout début du christianisme. Et puis, un beau jour, ces commerçants, ils avaient une autre religion, parce qu'il y avait eu quelqu'un chez eux qui s'appelait Mahomet et qui s'était converti. Et donc, ils sont arrivés. Donc ça, c'est une rencontre pacifique. Et on a des sultanats dans le Deccan, c'est-à-dire dans la partie, le triangle du sous-continent, des sultanats qui se sont développés, dans lesquels hindous et musulmans ont vécu en bonne intelligence. Alors après, dans le nord, il y a eu des grands empires, et il y a eu l'empire moghol, entre autres. Alors avant ces grands empires, il y a eu des sultanats, le sultanat de Delhi, etc. Ça, c'est pas toujours bien passé, hein, loin de là. Ça, on peut pas dire non plus que c'était toujours la paix entre musulmans et hindous. Après, il y a eu l'Empire moghol. Alors, la conquête moghole a été assez violente et on voit bien quand on est, par exemple, dans la région de Bénarès, sur le Gange, il y a des villes qui ont été des grands centres de l'Empire moghol où on a construit des mosquées et on voit bien, à l'œil nu, là, pour le coup, on ne peut pas le contester, que ces mosquées, elles ont été construites avec des éléments de temples hindous. Donc, on a détruit des temples pour construire des mosquées. Bon, c'est pas un acte de pacification particulièrement évident. Donc, on voit bien qu'il y a eu des conflits un peu incessants, mais en même temps, sous l'Empire moghol, il y a eu beaucoup de princes moghols, beaucoup d'empereurs moghols, qui ont été très ouverts et qui accueillaient à leur cour des hindous, des savants hindous qui ont lu les Upanishads. On a un empereur qui les a fait traduire en persan. C'est du sanskrit au persan parce que le persan était la langue de cour de l'Empire moghol, etc. Donc il faut y regarder de beaucoup plus près. Ils n'ont pas été toujours des ennemis héréditaires. Et finalement, c'est plutôt la partition qui les a divisés que le fait que ils étaient divisés avant. Alors, vous allez me dire, si on a décidé de faire deux pays, un pour les musulmans et un pour les hindous, c'est bien qu'ils étaient divisés. Oui, mais ce n'était pas si clair que ça. À partir du moment où il y a eu la partition, alors les uns se sont dit, ah bah oui, on est vraiment musulmans, et les autres se sont dit, ah bah oui, on est vraiment hindous. Et là, les problématiques ont été beaucoup plus des problématiques de masse. Voilà.
Je voulais revenir sur le problème de l'avatar. Quelle différence fondamentale vous faites entre les avatars hindous Et puis, la venue de Jésus sur Terre, le grand classique comme question.
Alors, je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations métaphysiques ou théologiques. De toute façon, je ne suis pas théologienne, donc ça va limiter le propos. Mais il y a quand même des choses essentielles à dire. D'abord, je reviens au temps cyclique et à ce mouvement sinusoïde. Il peut y avoir des avatars à chaque cosmos, enfin chaque cycle, chaque nouveau cosmos. C'est-à-dire que c'est pas une fois, ça se répète. Voilà. Donc ça, c'est déjà une différence fondamentale, du point de vue de la théologie chrétienne. Cette unicité de l'incarnation, il n'y a pas du tout l'équivalent dans l'hindouisme. Bon. Après, il y a un rapport au corps charnel qui est différent. C'est-à-dire que l'avatar est un être miraculeux qui s'incarne, entre guillemets, oui. Par exemple, dans le cas de Krishna, il naît d'une princesse humaine, et il va se développer, etc. Mais en même temps, il peut quitter son corps, aller ailleurs, sans son corps, etc. Donc, il y a un rapport au corps qui est différent. Et nul doute que... Alors, si j'ai dit que j'étais pas théologienne, c'est vrai, je suis historienne, nul doute que... on aurait considéré l'avatar s'il était venu à être connu lors des grands débats théologiques des conciles de l'Antiquité. Nul doute qu'on aurait considéré la notion d'avatara comme étant un bel exemple de docétisme et d'hérésie docétique. Ça, sûrement. Donc... l'avatar est un être miraculeux et, à la limite, rien ne lui est impossible. Entre autres, d'avoir une existence qui est virtuelle. C'est pas le même rapport au corps. Voilà, donc ça, c'est un autre aspect. Enfin, je vois ces deux aspects-là en premier ressort. Mais attendez, j'ajoute quelque chose, c'est que pour les hindous, alors, Jésus est un avatar. Ils le définissent comme un avatar. Vu de leur fenêtre, si j'ose dire, Jésus est un avatara. Ils l'appellent comme ça. Voilà. Donc,
On pense, enfin, certains pensent dans le sud de l'Inde qu'il y avait un hindouisme avant les Védas.
Non, il n'y avait pas un hindouisme avant les Védas. Ce qu'on appelle l'hindouisme ne peut pas être avant les Védas. Parce que l'hindouisme, il est solidaire d'une culture qui est sortie de la matrice védique. Ce qui est possible, non prouvé, mais ce qui est possible, c'est que le Sud ait connu une culture pré-védique, riche, orale, dont on n'a pas conservé des éléments. Alors, on a quand même conservé quelques éléments, qui sont des éléments de poésie mystique qui ont fleuri dans le sud de l'Inde et qui étaient encore récités, encore cultivés, on va dire, dans ce qu'on a appelé des académies. Bon, je crois que le mot académie ne convient pas, mais dans des cercles de poètes, on va dire. Et ça existait avant que les traditions en sanskrit qui sont venues du nord recouvrent le sud. Donc, ce que les gens du sud aiment entendre et ce à quoi ils croient, et sans doute qu'ils ont en partie raison, c'est au fait que, avant que la culture du nord d'origine védique arrive dans le sud, ils n'étaient pas des analphabètes, ils n'étaient pas des sauvages, ils avaient déjà une grande culture. Et c'est probable. Voilà. Mais on a très peu de traces de ça. Il y avait un spécialiste en France qui est décédé maintenant, qui s'appelait François Gros, qui a étudié ces questions. Est-ce qu'il y avait une religion en pays tamoul? Le Tamoul, c'est la région de Chennai, Madras. Est-ce qu'il y avait une religion en pays tamoul avant que n'arrive le védisme du Nord? Voilà ce que je peux dire scientifiquement.
J'ai une autre question. Comment les hindous arrivent à réconcilier le fait d'un temps cyclique, vous nous en avez parlé à plusieurs occasions, avec une démarche mystique? Pour les bouddhistes, si j'ai bien compris, je n'y connais pas grand-chose, il s'agit de s'extraire de ce temps cyclique et de ces réincarnations qui sont une composante. Comment les hindous voient la chose? En définitive, si tout revient sans cesse, à quoi bon?
Non, l'idée, c'est de se libérer de ce temps cyclique. Le temps cyclique, c'est le temps de l'existence, mais c'est un temps qui enferme, puisque c'est le temps de l'éternel retour. À partir du moment où vous obtenez la libération, où la divinité vous donne la libération, vous sortez de tout ça, et vous allez fusionner avec la divinité. Ça, c'est la croyance hindoue. Mais c'est une croyance qui s'est répandue et amalgamée avec le bouddhisme, qui était beaucoup plus du côté de... Enfin, l'état final, l'état le plus élevé dans le bouddhisme, ils appellent ça nirvana, qui veut dire extinction. Donc, l'idée dans le bouddhisme, c'était pas du tout d'aller dans le paradis d'une divinité ou de fusionner avec une divinité. C'était pas ça. Mais c'est devenu petit à petit ça. Et maintenant, depuis longtemps, depuis plus d'un millénaire, toute l'Asie fonctionne sur cette thématique d'un temps cyclique qui est le temps de l'existence, le temps de l'éternel retour, et de l'idée d'une libération de ce temps, sortir de ce temps, pour accéder à une sorte de bonheur éternel.
Est-ce qu'on constate en Inde un athéisme?
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. L'Inde moderne, enfin l'Inde depuis la fin du 19e siècle, connaît. J'ai pas de proportion parce que on n'a pas de statistiques sur l'athéisme, mais connaît en tout. D'abord, elle a été travaillée par tous les grands mouvements athées qui ont travaillé l'Europe depuis l'époque des Lumières. Donc en Inde, il y a un marxisme très puissant, qui d'ailleurs a été une force très importante d'évolution de la société à partir de la partition. Donc le marxisme et le polythéisme hindou, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et donc il y a une critique de la religion au regard du socialisme et du marxisme qui est importante. Et puis il y a des grands écrivains qui sont athées ou qui sont agnostiques, et qui entraînent aussi une certaine critique de la religion. Oui.
Oui, ça me fait penser, il me semble que ce matin, vous avez rappelé que Bouddha avait dit, je crois, à ses disciples de garder sa propre réflexion, si vous voulez, et de ne pas le suivre. On n'était pas du tout obligé de le suivre, il fallait être très critique vis-à-vis de ce qu'il disait, il me semble. Est-ce que c'est exact, d'une part, et est-ce que les hindouistes ont également... ont le droit d'avoir une vue critique, et comme les chrétiens aussi d'ailleurs, de leur propre religion?
Oui, alors le Bouddha, il parlait... c'était une pointe d'humour aussi. Il y avait une période, là, au VIe siècle, qui était, vous l'avez compris, une période de questionnement. Et donc, il visait aussi ceux qui faisaient confiance à n'importe qui. Et il disait, si vous rencontrez un maître, tuez-le. Il y a ça. Il y a aussi le développement d'une responsabilité personnelle. C'est quelque chose de très nouveau. Ça n'existait pas avant. quand il dit « vous êtes à vous-même votre propre refuge », ça veut dire bah, « c'est à vous de... Voilà, c'est à vous de chercher la libération, personne ne fera pour vous ». Alors ça, c'est assez nouveau pour l'époque. Donc ça, c'est ce que, la signification de ce que le Bouddha dit. Maintenant, la critique de la religion dans l'hindouisme, pour les hindous eux-mêmes, elle est très peu développée, on va dire. Et les hindous sont très religieux, ils n'aiment pas qu'on critique leur religion, et ils sont méfiants vis-à-vis des intellectuels qui, à l'intérieur même de l'hindouisme, cherchent à le faire bouger, cherchent à le faire évoluer. C'est pas facile. C'est pas aussi compliqué qu'en islam, mais c'est pas facile quand même.
Oui, je reviens un petit peu, enfin je vais plutôt dans le sens de ce qui est dit actuellement par rapport à la critique de la religion en elle-même. En vous posant la question, d'après votre expérience, est-ce que vous croyez qu'à notre époque, on a certains mouvements de remise en question de l'existence des castes ?
Ah, ça, c'est encore un autre problème, ça. Alors, d'abord, il y a des conditions de vie qui sont aussi modernes en Inde qu'ailleurs. C'est-à-dire que les jeunes sont à la fac ensemble, on travaille dans des open space dans les entreprises. On prend le bus, et dans le bus, la problématique, c'est moins celle de la caste ou de la couleur, comme ça a pu être aux États-Unis, que homme-femme. Mais c'est pas le problème des castes, c'est-à-dire de se côtoyer, de se toucher même entre gens de castes différentes. Par contre, c'est les femmes qui sont plus qu'embêtés. Oui, embêtés, le mot est un peu faible. Bon. Donc, il y a des conditions de vie qui font que tout ça se mélange. Bon. Après, ben, j'ai dit qu'une caste, ça se distinguait aussi par le métier. Or, maintenant, vous ne faites pas forcément le métier de vos parents. Donc, du coup, cette définition-là, cette spécificité-là de la caste, elle tombe. Après, alors restent les coutumes, puisqu'on est plutôt sur la religion, on n'est pas sur la culture en général, mais sur la religion, restent toutes les coutumes et dévotions qui sont propres aux castes, les croyances concernant le mariage et la généalogie, etc. Alors ça reste assez vivant quand même. Il y a une incrustation très profonde, parce que c'est aussi un principe d'identité pour les gens. Et donc c'est aussi des repères, et que c'est pas facile dans un contexte mondialisé de se défaire de ça. Voilà. Il y a d'autres phénomènes. Je crois que tout à l'heure quelqu'un a posé la question et puis j'ai pas répondu sur les diasporas. Alors, il y a des diasporas hindous un peu partout dans le monde, mais surtout dans les pays anglophones, normal, puisque l'Inde est anglophone. Et donc, beaucoup au Royaume-Uni et beaucoup aux États-Unis et au Canada aussi. Et ces diasporas, on a remarqué qu'elles étaient très traditionnalistes. Elles réussissent très, très bien. Il y a beaucoup d'Indiens hindous ou sikhs d'ailleurs dans le cinéma par exemple, dans les médias, etc. Enfin, ils réussissent en général très bien, mais ils restent attachés à leurs valeurs traditionnelles. Et une idée partagée par beaucoup de sociologues, c'est que plus on est loin du pays d'origine, plus on a besoin de garder son identité, pour pas se perdre finalement, pour pas la perdre, cette identité. Et que c'est dans la religion qu'on trouve son identité. Bon, ça, c'est une thématique qui est pas seulement caractéristique du monde hindou et des diasporas hindous, hein, mais de ce monde dans lequel nous vivons en général, c'est que les religions sont des réservoirs d'identité. Elles font pas que ça, bien sûr, mais elles sont des réservoirs d'identité, et ça, c'est une fonction importante dans le monde contemporain. Alors là, l'hindouisme en offre une illustration très nette.
Je vous remercie.
Peut-être faire une petite pause, hein. 15h20. Ah, pardon.
Oui, ben, pour revenir sur la diaspora, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la manière dont l'hindouisme s'est répandu en partie en Asie du Sud-Est, hein. Voilà. Et puis, ben, si on a un petit peu de temps, j'aurais bien aimé aussi avoir un petit mot sur l'importance de la danse dans l'hindouisme, la danse classique indienne. Voilà, c'est, si le temps le permet.
Sur la danse, je ne vais pas répondre parce que là, on va vraiment manquer de temps. Sur les diasporas hindous en Asie du Sud-Est, ben, elles ont été importantes. Elles sont moindres parce que c'est les Chinois qui ont pris en charge le commerce, etc. Mais à l'époque médiévale, toute la côte, tous les royaumes qui étaient sur la côte est du sous-continent indien avaient des colonies en Birmanie, enfin dans ce qui est actuellement la Birmanie, le Cambodge, le Vietnam, etc. Donc il y avait des comptoirs et il y avait des colonies. Si vous pensez à Angkor, par exemple, eh ben, que vous comparez les temples d'Angkor et les temples hindous de l'Inde du Sud, vous verrez qu'il y a une parenté évidente. Et les thématiques des temples d'Angkor, entre autres les récits du Ramayana, de la naissance du monde à partir de l'océan primordial, tous ces thèmes-là sont des thèmes hindous. Et il y avait des officiants hindous à la cour des rois d'Angkor. Donc, ça a été très important, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui.
Non, n'importe pas. La dernière partie.
Moi, je réponds à. Voilà, si.
Alors j'aurais juste une question, enfin c'est pas une question, je pense que c'est énorme, sur la place des femmes et le lien avec la religion, parce que finalement il y a des déesses femmes, vous avez cité des mystiques femmes, et quand on lit un peu ce qui se passe en Inde, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit dans le temple, interdiction pour les femmes d'y rentrer, etc., est-ce que c'est en lien avec la religion hindoue, ou est-ce que c'est plus sociologique, politique peut-être, enfin voilà.
L'interdiction d'entrer dans un temple, c'est dans un temple, dans toute l'Inde, d'accord ? Donc on va replacer le phénomène à sa juste dimension. Voilà, alors c'est très choquant que des femmes n'aient pas le droit d'entrer dans un temple, mais c'est un temple. On est dans une société qui a été extrêmement patriarcale, où les transmissions généalogiques, les transmissions des savoirs, les transmissions spirituelles se faisaient toujours par des lignées masculines. La place des femmes dans la religion est une place qui n'est pas très apparente, alors qu'elle est fondamentale parce que ce sont les femmes qui sont responsables des dévotions familiales. On a donc quelques mystiques ou saintes, évidemment dans la galerie de tous les saints et mystiques, elles sont très très minoritaires, mais elles ont pu être des gourous, des maîtres spirituels pour des hommes. Donc dans quelques cas, il y a une reconnaissance, voilà. Mais globalement, c'est vrai que cette société était extrêmement patriarcale. Alors, est-ce que c'est dû à des réalités sociologiques ou à la religion ? J'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire que la religion et les structures religieuses sont le reflet des structures sociologiques, bien sûr. Et à partir du moment où les savoirs religieux sont, comme tous les autres savoirs, sont l'apanage des hommes, les femmes sont immédiatement défavorisées, bien sûr. Voilà. Bon, alors on peut faire une petite pause, sachant que après il nous reste une heure.
Avant de faire la pause, je pourrais juste vous dire un petit mot. Vous savez que cette conférence avec Madame Tardan-Masquelier est organisée par le CIF, le Centre pour l'intelligence de la foi. Donc un certain nombre d'entre vous sont étudiants actuellement au CIF, d'autres non. Donc je voudrais vous en dire un petit mot, de telle sorte que si certains sont intéressés par en savoir plus, on puisse voir pendant la pause. Là, évidemment, on essaie d'avoir un aperçu de l'hindouisme. Le propre du CIF, c'est d'essayer de donner à des gens qui s'intéressent à la foi chrétienne des repères, un socle de connaissances, en proposant un parcours de théologie, enfin, on pourrait dire d'intelligence de la foi, qui se déroule sur 2 ans, mais auquel on peut aussi accéder par trimestre. Donc chaque trimestre, il y a un enseignant, 10 cours sur un thème particulier qui permet, au bout de 2 ans, d'avoir vraiment une assise solide, de savoir de quoi on parle quand on parle de la religion chrétienne. Et la pédagogie particulière du CIF, qui accueille des personnes très variées, notamment du point de vue de la foi. Certains sont vraiment en recherche, d'autres sont engagés dans l'Église mais ont besoin de prendre un peu de distance. Certains ont beaucoup de questions, d'autres veulent tout simplement approfondir et en savoir plus. Le propre de la pédagogie du CIF, c'est de ne pas fournir simplement un socle de connaissances qui ne serait que cérébral, mais que cette foi puisse venir irriguer la vie des gens et voilà, descendre un peu dans leur cœur. Et on a des groupes qui se réunissent mensuellement. Tous les étudiants assistent aux cours, mais sont aussi dans des groupes, accompagnés par quelqu'un qui est formé en théologie, et ils réfléchissent à partir de textes, de théologie ou de textes bibliques. Et là, c'est vraiment une expérience d'échange entre chrétiens de provenance diverse, où on écoute, on apprend à décortiquer un texte, on apprend à réfléchir à des questions qu'on partage avec des chrétiens, parfois pas chrétiens d'ailleurs, très différents les uns des autres. Donc c'est un lieu qui est tout à fait à part dans tout le concert des formations qui existent à Paris. Donc si vous êtes intéressé par en savoir plus, on a des petits dépliants là-bas et on est tout à fait disposé à vous en parler plus en détail. Sachant que les cours sont donnés l'après-midi et le soir, une fois par semaine, 2 heures.
Bon, ça se donne quoi, un quart d'heure? Je ne sais pas. On dit quoi aux gens, un quart d'heure ou... Et après.